Le monde en question avec Isabelle Cortian.
Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question, troisième saison du Monde en Question. J'ai le plaisir pour inaugurer cette nouvelle saison de recevoir Salvatore Lombardo. Bonjour Salvatore Lombardo.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de la faculté de sciences politiques Swiss UMF University à Genève et vous êtes surtout un grand connaisseur de l'histoire de l'Afghanistan. Et en particulier d'un de ses personnages quasi figure héroïque mythique, le commandant Massoud. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Louis de Mareuil, De Massoud à Massoud, 20 ans après. Pourquoi ce livre ? Ma première question.
Alors ce livre, je le devais au commandant Massoud, je le devais à Ahmad. Et c'est un livre pas du tout opportuniste, parce que certains vont pouvoir dire pourquoi a-t-il sorti ce livre juste maintenant, c'est pour faire du fric ou quoi que ce soit, vous savez comme ça. Certains de nos confrères certaines âmes bien pensantes, peu importe. Ce livre est prévu depuis 2 ans en réalité, oui. avec mon éditeur Louis de Mareuil, nous oui. avions imaginé quelque chose d'assez sympa pour répondre à une demande de Ahmad Massoud justement, oui. puisque je suis très 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 ami avec l'ensemble de la famille du commandant Massoud, ses frères, ses neveux et évidemment son fils, mm-hmm. et nous avions prévu de faire un road trip. En ouais. Afghanistan, Ahmad voulait me montrer le désastre de l'occupation, parce que lui il appelait ça une occupation, ouais. non pas une présence, de l'occupation américaine depuis 20 ans.
Ouais.
Et il me dit, je veux vraiment que tu te rendes compte, donc on va faire le tour de l'Afghanistan, soit à pied, soit en 4x4, soit en hélicoptère, et on va visiter l'ensemble du désastre. Voilà. Il me dit, vous avez eu, vous, Français, un Waterloo. Nous, on a un Waterloo tous les 50 kilomètres. Mm-hmm. Merci l'Amérique. Donc, au départ, ce livre devait s'appeler Afghanistan, année zéro.
Oui.
Et c'était un road trip que je signais avec Ahmad. Et puis, on a retardé. C'était devenu de plus en plus dangereux.
Oui.
On a pu faire qu'un survol en hélicoptère. C'est devenu assez problématique. Les Américains eux-mêmes nous empêchaient de voler comme on voulait.
Oui.
Donc, finalement, on a retardé, et puis est arrivé ce qui est arrivé, à savoir la menace talibane,
oui.
parce qu'on savait depuis le mois de mai que les Américains, Trump en l'occurrence, oui. parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de
Biden, la décision
a été prise par l'administration de Trump.
On est tout à
donc
fait d'accord.
depuis le mois de mai, on savait que Trump avait négocié un accord, on ne connaissait pas exactement oui. la teneur, avec les talibans au Qatar.
Et oui.
Encore une fois, une ironie du destin, vous imaginez, on signe un pseudo-accord de paix au Qatar, qui est le pays le plus pourvoyeur de terroristes au monde. C'est le pays qui finance le terrorisme depuis des années. Il finance la Coupe du Monde de foot aussi. Il finance le PSG et il finance les terroristes, il finance Al-Qaïda, il finance l'État islamique. Voilà, je ne sais pas quel sort ils vont me réserver la sortie de vos studios, mais de toute façon, je suis obligé de dénoncer ça. Et de toute façon, c'est de l'autorité publique. Donc, depuis ces accords de paix du mois de mai, on savait que les talibans allaient arriver au pouvoir,
ouais.
non pas arriver sur le terrain, parce qu'ils étaient sur le terrain depuis longtemps.
Ouais.
En réalité, depuis une bonne dizaine d'années, depuis l'arrêt pratiquement systématique des combats, depuis le départ de l'armée française, depuis le retrait d'une bonne partie des forces britanniques, italiennes et alliées, il n'y avait plus de combats pratiquement. La coalition dite internationale était, suivant le langage cher aux Américains, voilà, ils sont très forts sur les coalitions qui servent
oui,
leurs
qui...
intérêts stricto
oui, oui.
sensu. Donc depuis, les talibans avaient pu revenir. Donc ils étaient carrément, ils s'étaient fondus dans la population. Vous savez, les talibans ne portent pas un uniforme de talibans. Ils portent leur fameux turban noir lorsqu'ils vont au combat. Mais sinon, le reste du temps, ils sont habillés comme n'importe quel Afghan.
Mmh.
La plupart sont des Afghans, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Là, on fait bien la différence entre les talibans et l'État islamique, et héritier de Daesh, héritier d'Al-Qaïda, héritier de Oussama Ben Laden mmh. et de ses sbires. Donc, les talibans eux-mêmes étaient déjà dans le pays. Alors, vous mmh. allez me dire, mais pourquoi la population ne les a pas dénoncés après les atrocités qu'ils avaient commises ? Le problème, c'est que le gouvernement fantoche mis en place, les gouvernements successifs fantoches mis en place par les Américains depuis 20 ans...
A commencé par celui d'Hamid Karzai,
scandaleux. Mm-hmm. Scandaleux, je vais revenir, parce que ça, ouais. Là, c'est un scandale absolu. Les Nations Unies se sont rendues coupables d'un crime contre l'intelligence, d'un crime contre la démocratie. Donc, ces deux présidents successifs, Hamid Karzai et Ashraf Ghani, étaient tellement illégitimes, tellement détestés, tellement honnis, tellement raillés par la population, que la population a dit, de toute façon, à quoi ça servirait de les dénoncer ? Ils s'en foutent du moment qu'ils s'enrichissent, ils n'ont pas d'autre souci que celui de s'enrichir. C'est un peu injuste, mais globalement, disons qu'à 80%, c'est un raisonnement qui se tient quand on voit que 20 ans après, en dépit des milliers de milliards investis en Afghanistan, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de services publics, les services d'éducation sont minables, sauf ceux qui sont assurés directement par des ONG ou des pays étrangers. Ouais. Voilà, c'est la réalité. Donc les talibans ont pu revenir tranquillement, s'installer partout dans les provinces, sauf évidemment... Dans les zones comme le Panjshir
où sont implantés
les moudjahidines du commandant Massoud.
Le nouveau commandant Massoud.
Et donc, finalement, c'est presque logiquement que ces gens-là sont arrivés au pouvoir. Ils ont simplement refait surface. Mmh. Ils étaient déjà dans le pays, donc ne croyons pas qu'ils sont arrivés le 15 août au matin...
D'un seul coup,
ils sont arrivés du Pakistan avec armes et bagages. Non, ils étaient là, les armes étaient déjà là, les plans de bataille étaient déjà établis, les complicités locales avec la fameuse pseudo-armée nationale mise en place à grands frais par les alliés, et notamment par les Américains et les Français, qui sont les plus gros contributeurs, c'était une pantomime, un théâtre d'ombre. Les Italiens appelaient ça un fantasme, c'est-à-dire un fantôme, une illusion d'armée nationale, ne pouvait en aucun cas, même s'il l'avait voulu, répondre à l'attaque des talibans. Donc c'est une irruption des talibans au grand jour, alors qu'ils étaient déjà dissimulés depuis plus d'une dizaine d'années. Et pourquoi l'armée nationale ne s'est pas battue ? Même chose. Premièrement, cette armée nationale était composée pour un bon tiers de talibans.
Oui.
Qui ont profité de l'occasion pour se faire armer, équiper et évidemment entraîner par les forces spéciales françaises et américaines, un bon tiers d'opportunistes, c'est-à-dire de gens qui venaient pour toucher un gros salaire, de l'ordre de 1 000 $ par mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente.
Par rapport au salaire moyen.
Au salaire moyen, c'est-à-dire 1 000 $ par mois, ça fait vivre 3 à 4 familles pendant un an.
Pendant un an.
Voilà, la famille moyenne étant de 12 personnes, vous imaginez. Donc 1 000 $ plus l'équipement. C'était très attractif. Et le tiers restant, c'est d'anciens moudjahidines qui eux aussi ont profité de l'occasion pour dire, on n'a pas besoin de leur entraînement, mais peut-être qu'on peut apprendre certaines choses, et puis surtout on va avoir du matériel.
Ouais.
Donc cette armée nationale, elle s'est évanouie dans la nature au premier coup de semonce tiré par les talibans leur arrivée à Kaboul. Un bon tiers est passé directement dans les rangs des talibans. Un tiers s'est évanoui dans la nature en abandonnant armes et bagages. Un tiers a gagné le Panjshir pour rejoindre les moudjahidines du commandant Massoud.
Oui. Alors, peut-être on pourrait aussi commencer par raconter comment vous avez rencontré le commandant Massoud, alors le père, hein, puisque vous connaissez toute la famille. Alors, on va commencer par le commandant Massoud. Comment vous l'avez rencontré ?
Alors, j'ai rencontré le commandant Massoud je ne me souviens plus quelle année, ça doit être 1981 ou 82.
Ouais.
Donc c'était au tout début de sa saga. Ouais. Et j'étais un journaliste comme un autre qui couvrait l'actualité internationale pour un quotidien italien qui s'appelle La Repubblica, ouais. Qui s'appelle toujours La Repubblica.
Qui s'appelle, oui, le grand quotidien.
J'ai commencé ma carrière avec le numéro 1 de La Repubblica.
Ah bah. Voyez, voilà. D'accord.
Je ne suis pas tout à fait un débutant, je ne suis pas tout à fait un perdreau de l'année, comme on dit. Par moments, ça m'insupporte, mais c'est la réalité. En tout cas, j'ai ce vécu-là. Et puis, plusieurs années plus tard, donc à l'époque, j'étais un journaliste comme un autre, et puis plusieurs années plus tard, j'étais fasciné par ce personnage, qui ne devait même pas se souvenir de moi, et j'ai demandé à mon éditeur de sortir un livre sur Massoud, en 2000. donc bien plus tard. Nous sommes en 2000, je viens de sortir un livre prémonitoire qui s'appelle Un printemps tunisien, qui a un succès formidable, plus de 100 000 exemplaires vendus. Donc mon éditeur, qui ne croit pas du tout en Massoud, me dit « Ok, je te fais cadeau de ce livre, raconte ce que tu veux, soit un petit format, parce que franchement, il ne faut pas que ça me revienne cher, mais on ne va pas en vendre 10 ou peut-être 20 si tu les achètes toi-même. » J'ai dit « Ok, je sors ce livre. » Le livre est bien diffusé, évidemment. Et à l'aéroport de Roissy, l'ambassadeur d'Afghanistan, qui était un fidèle de Massoud, voit le livre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il achète 3 livres et il les ramène avec lui au Tadjikistan et ensuite en hélicoptère, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas tirer à Kaboul, il y avait les talibans, en hélicoptère dans le Panjshir. Massoud voit le livre, Massoud est francophone et francophile. Il voit le livre, il adore le livre. Il dit « Il faut que je voie ce gars-là. » 2 jours plus tard, on m'appelle, le matin à ma ferme en Haute-Loire, je suis en train de me raser et mon éditeur m'appelle, il me dit « Laisse tout tomber, il faut que tu partes pour Paris, l'ambassadeur d'Afghanistan t'attend, tu vas partir en Afghanistan ». Qu'est-ce que tu me racontes ?
Pour un livre qu'il ne voulait pas faire, qu'il a fait pour votre plaisir.
Massoud veut absolument te voir. Vas-y, c'est super pour la promotion du livre. Vous savez, comme ça, certains éditeurs, pas Louis de Marolles, mais certains éditeurs n'hésitent pas à profiter de l'occasion. Bon, après, c'est humain. Donc, je vais à Paris, je rencontre Mehrabuddin Mastan, qui était le chargé d'affaires du commandant Massoud, l'homme de confiance du commandant Massoud pour l'ensemble des pays francophones, basé à l'ambassade d'Afghanistan à Paris, et il me dit le chef, parce que ne l'appelait pas le commandant mais le chef veut absolument vous voir, il a adoré votre livre, il veut connaître votre personnage, je me suis renseigné sur vous, ils avaient la possibilité de se renseigner, rassurez-vous, ils avaient aussi leur propre service de renseignement, on sait que vous êtes un intellectuel, vous avez fait des études d'histoire de l'art, ça lui plaît beaucoup, j'y vous êtes sûr? Et voilà, c'est parti. 2 jours plus tard, j'étais parti, Paris, Munich, Dubaï, Douchanbé, au Tadjikistan. Ouais. Et là, pendant 8 jours, j'ai attendu que le commandant m'envoie enfin un hélicoptère. Ouais. L'hélicoptère de personnel du commandant Massoud est arrivé, un vieil hélicoptère pris aux soldats russes, aux soldats soviétiques à l'époque, avec le train d'atterrissage bancal.
Oui, mais c'est des bonnes machines en général.
Extrêmement fiable, mais aménagé à l'afghane. Vous voyez, par exemple, le fauteuil de Massoud était un vieux fauteuil de salon qui avait été vissé sur le sol. Voilà, c'est l'Afghanistan. Ça surprend. Donc j'arrive dans le Panjshir et là je rencontre Massoud. Je lui rappelle qu'on s'est déjà vu, mais bon, il dit c'est possible, mais il faut pas que tu t'offusques. Je me souviens pas, j'ai vu tellement de monde, mais j'ai adoré ce livre. Explique-moi ce que tu fais dans la vie, comment ça marche, qu'est-ce que tu fais. Et puis on a commencé à parler de tout sauf de combat. Ça me semblait extraordinaire. Et donc il m'a parlé de sa passion pour l'architecture, de sa passion pour la poésie. Il m'a expliqué qu'il avait une formation d'architecte, pas du tout une formation militaire. Son papa était militaire dans l'armée royale, mais lui pas du tout. Lui il voulait devenir architecte ou il voulait devenir poète. Et donc il s'est orienté vers ça et tout au long de ses années de combat, il n'a jamais cessé d'écrire des poésies qu'il ne voulait montrer à personne, évidemment, parce qu'il est considéré indigne. Mais il écrivait quand même, de lire de la poésie, notamment de la poésie française, notamment Jean Moréas. Voilà, c'est incroyable. Quel est le politique français aujourd'hui qui est capable de citer un seul livre de Jean Moréas? Il faudra que je fasse le test un jour pour savoir. Et surtout, il dessinait des plans de vie idéales. Il était fasciné par les utopies de la fin du 19e siècle. Il rêvait d'une cité idéale où les gens seraient heureux. Il avait le culte du bonheur, de la mélancolie et du bonheur. C'est un personnage fascinant. C'est pas Rambo qui débarque face aux talibans, absolument pas. C'est quelqu'un d'autre, très quasiment métaphysique dans sa démarche. Et donc c'était quelqu'un qui était capable de passer des journées entières à marcher, à affronter des difficultés, à régler le tir de son artillerie, de ses canons, à sauter de poste de combat en poste de combat, à passer 10 heures en hélicoptère pour essayer de tout régler, et puis rentrer le soir pendant que tout le monde dormait, à se mettre à lire jusqu'au lever du jour, à se mettre à lire des poésies ou à écrire des poésies ou à réfléchir ou ou à rêver en regardant la Lune. Il était fasciné par la Lune, par exemple. Il était persuadé que ça avait une influence très forte sur nos... Alors lui disait sur notre destin, moi je dirais plutôt sur notre vie, mais lui disait... Et c'est, le destin ouais. était toujours quelque chose de très important pour lui. Voilà comment j'ai connu...
Comment vous l'avez rencontré et vous avez eu l'occasion de le revoir plusieurs fois.
À partir de ce moment-là, pendant les 15-16 mois qui ont séparé notre première vraie rencontre ouais. de son assassinat ouais. par des deux Tunisiens du de parti Ennahda, ouais. ouais. mis en place grâce à M. Sarkozy ouais. Du côté de Tunis, hein, ouais. parce que c'est quand même ça, c'est quand même inimaginable. On a enlevé Ben Ali pour mettre pire que Ben Ali, à savoir le parti Ennahda des assassins du commandant Massoud. Voilà, la filiale maghrébine d'Al-Qaïda. Voilà, ils étaient au pouvoir jusqu'à il y a 15 jours. Là. Il y a 15 jours, enfin, il y a eu un sursaut réellement démocratique en Tunisie, puisque le président les a virés et il va peut-être organiser de nouvelles élections législatives. J'espère que cette fois-ci, le peuple comprendra que son intérêt, c'est pas de continuer à fréquenter Ennahda. Voilà, donc j'ai fréquenté très régulièrement, j'ai fait 11 voyages en l'espace de 18 mois. Voilà, ouais. Pour vous dire un petit peu.
Alors, qu'est-ce qu'il disait à l'époque, Massoud ? Quelle était son analyse de la situation ? Qu'est-ce qu'il a partagé avec vous sur son diagnostic ?
Son diagnostic était. Je suis arrivé au moment où il était quasiment désespéré.
Ouais.
Il était désespéré parce qu'il ne comprenait pas que ces messages de demande à l'aide des Occidentaux ne fonctionnent pas.
Ouais.
D'ailleurs, dans le livre ouais. que vous avez sous les yeux ouais. de Massoud, j'ai mis des extraits d'un texte extraordinaire, ouais. un texte prémonitoire qu'il avait écrit pour la Biennale de Venise.
Ouais.
À cette époque-là, moi, je suis un intellectuel engagé et la Biennale de Venise voulait mettre en valeur mon travail d'écrivain et d'intellectuel ouais. engagé. Moi, je leur ai dit, au lieu de m'inviter moi, je vais transformer mon invitation en autre invitation. Donc je vais venir, mais avec deux personnages que moi j'estime exceptionnels, ouais. deux rebelles, le commandant afghan Ahmad Shah Massoud et le général Michel Aoun, le rebelle libanais qui se battait contre la Syrie et à qui
il sera... Qui est devenu président
avec les problèmes que l'on sait.
C'est pas
le sujet, mais ça serait intéressant d'ailleurs de faire une émission là-dessus. Mais bon, une autre fois. Mais à l'époque, Israël lui reprochait essentiellement d'avoir défendu les Palestiniens face à Tsahal, parce que quand Tsahal est entré dans le pays pour régler le compte du Fatah, le jeune colonel Aoun, à l'époque, qui commandait un régiment d'élite, a mis son régiment face à Tsahal pour permettre au Fatah de s'embarquer et de pouvoir se réfugier en Tunisie. Vous voyez que les choses, tout est lié.
Il y a Damas.
Et évidemment. Et pourquoi je vous parle d'Aoun ? Parce que le héros de Aoun, c'est Massoud. Lorsque j'ai présenté mon livre au Sénat en France, qui est venu alors qu'il était en exil, qu'il n'avait pas le droit de sortir et de faire de politique ? Le général Aoun est venu au Sénat pour rendre hommage au commandant Massoud. Il avait dit aux journalistes, ne croyez pas que je vienne par amitié pour mon ami Salvatore Lombardo. Ok, c'est mon ami, mais son invitation est essentielle pour moi, elle est vitale. Je dois rendre hommage au commandant Massoud. Je dois demander aux États qui se proclament démocratie de soutenir les rêves de démocratie du commandant Massoud. Ne pas le faire serait criminel.
Mmh.
Évidemment, ça lui a valu une interdiction de sortir définitivement de la haute maison. Il n'a pas pu se rendre au Parlement européen.
Mmh.
On lui a interdit de répondre à l'invitation du Parlement européen. Il faut savoir, la démocratie française est quand même fluctuante par moment. Et voilà. Et puis Massoud était aussi désespéré de voir que ses appels au soutien international, ouais. notamment de ce pays qu'il adorait, la France, parce que n'oublions pas qu'il a eu donc une éducation francophone et francophile mm-hmm. au lycée Tekla, le lycée français de Kaboul, qu'il était passionné par la poésie, par la littérature française, par l'architecture française aussi. Il aimait Miles Stevens, par exemple. Ouais. Vous connaissez beaucoup de politiques français qui s'intéressent à Miles Stevens. Voilà, vous voyez, on leur fait un procès, vous allez me dire. Mais c'est important pour connaître la personnalité complexe du commandant Massoud. Donc il était désespéré parce que ses appels n'étaient pas entendus. Et le comble du désespoir, c'est au printemps 2001,
ouais.
lorsqu'il vient à Paris
ouais.
et que Chirac et Jospin refusent tous les deux de le recevoir. La droite refuse de le recevoir, la gauche refuse de le recevoir, alors que quelques jours auparavant, ils avaient reçu des émissaires talibans.
Mmh.
Voilà, ça a littéralement brisé un ressort chez lui.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, je l'ai trouvé désabusé, je l'ai trouvé désespéré, lui qui espérait toujours, lui qui disait toujours, de toute façon, c'est pas eux qui vont décider, c'est lui, en montrant le ciel. Ouais. C'était un croyant, hein. on peut pas aller contre ça. Mais un croyant des Lumières, un musulman des Lumières, qui acceptait, tu es chrétien, tu veux prier avec nous, il n'y a absolument aucun problème, viens prier ce soir avec mes commandants. Vous voyez, c'était comme ça. Tu n'es pas croyant, tu ne sais pas ce que tu perds. Voilà, c'était comme ça. Mais je te respecte, aucun problème. C'est le ramadan, tu veux boire, tu veux manger, aucun problème, puisque ta religion ne te l'interdit pas. Ma religion, moi, me l'interdit. Je ne fais pas d'efforts particuliers. C'était quelqu'un d'une immense générosité, d'une immense capacité de compréhension, d'une immense volonté d'aller à la rencontre de l'autre. Ça c'était le commandant Massoud.
Bon, je propose une première pause musicale, si vous le voulez bien, et on va écouter une chanson de Férouz que je crois le commandant Massoud aimait beaucoup.
Il adorait l'écouter en boucle.
Les Beyrouth, min qalbi salamun les Beyrouth, wa qubalun lil bahr wal buyout. لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه كيف صار طعمها طعم نار ودخان أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها وليل Thank you.
Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1. Dans le monde en question, nous recevons Salvatore Lombardo pour son livre de Massoud à Massoud, 20 ans après. Alors, on va pas tout de suite parler des 20 ans après, mais quand vous étiez reçu par ce commandant Massoud, il vous voyait dans la zone qu'il contrôlait, dans la vallée du Panchir. Est-ce que vous pouvez nous parler de la particularité de cette vallée du Panchir? Est-ce que vous pouvez nous parler de ses combattants, de...
Alors, la vallée du Panchir ressemble à certaines vallées pyrénéennes. Vous savez, elle s'ouvre assez largement au tout départ, elle se referme très rapidement, et ensuite elle se diversifie tout au long de la profondeur par des petites vallées qui sont perpendiculaires à la vallée principale. Et ces petites vallées se diversifient encore en d'autres vallées. On dirait presque un système neuro-végétatif. C'est ahurissant. Et c'est comme ça que Massoud et ses Moudjahidines étaient arrivés à tenir tête à ce qui était à l'époque la meilleure armée du monde, l'armée soviétique. Mmh. Et les soviétiques ont perdu énormément d'hommes là-bas parce qu'ils avaient une capacité militaire exceptionnelle, mais une capacité militaire traditionnelle. Ils avaient du mal à adapter leur matériel et leur tactique.
Matériel lourd, essentiellement,
du matériel lourd,
à des combattants montagnards. Dans l'école, dans les montagnes, c'est beaucoup plus difficile.
C'était impossible. Donc, en plus, Massoud avait l'intelligence de refuser les combats massifs. Il est évident qu'en zone découverte face à l'armée soviétique, ça ne servait strictement à rien. Il avait quelques tanks lui aussi, mais enfin, il faut voir dans quel état ils étaient. C'était des vieux tanks qu'il avait achetés dans les républiques soviétiques adjacentes à la Russie, qui étaient dans des états déplorables. Il en achetait notamment en Ouzbékistan, au Turkménistan et au Tadjikistan, mais c'était des chars qui dataient pratiquement de la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez leur état et leur capacité de combattre. D'ailleurs, ils s'en servaient le plus souvent comme des pièces d'artillerie. Ils ne bougeaient plus, ils les enterraient et ça servait de pièces d'artillerie. Donc, il a utilisé les moyens qu'il avait à sa disposition. Il était très inspiré par un livre qui s'appelait « Les sept piliers de la sagesse », qui s'appelle toujours « Les sept piliers de la sagesse », du colonel Thomas-Edouard Lawrence. Et Lawrence, avec ses fameuses légions arabes, qui étaient constituées de bandes armées de bédouins, ne pouvait pas attaquer la surpuissante armée turque, qui plus est soutenue par l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il faisait? La guérilla. Et la guérilla, la mobilité, on harcèle, on coupe les voies de communication, on démoralise l'ennemi. C'est exactement ce qu'il a fait.
Alors il bénéficiait quand même aussi d'un peu d'armement, de missiles Stinger.
À l'époque, il était évident que les Américains le regardaient d'un air moins soupçonneux que ce qu'ils l'ont considéré après. Donc à l'époque, la France et les Américains lui ont fourni des armes anti-aériennes et des armes anti-chars qui lui ont permis, des armes légères,
pas très sophistiquées, performantes,
qui permettaient de démolir un char lourd, qui permettaient surtout de descendre des hélicoptères. Les Russes ont perdu des centaines d'hélicoptères là-bas. Et ça leur a permis aussi de descendre quelques MiG. Mais globalement, à l'époque, l'aide américaine et l'aide française se partageaient entre les Moudjahidines du commandant Massoud, de l'Alliance dite du Nord, que lui appelait l'Alliance nationale, qui regroupait l'essentiel des ethnies. Sauf une partie importante des Pachtounes. Et puis il y avait le fameux Ekmatyar qu'on appelle le boucher, qui lui tuait les Russes de manière inimaginable, qui ensuite a tué les talibans de manière inimaginable, et qui tuait aussi les hommes de Massoud de manière inimaginable, en les torturant, les émasculant. Enfin, c'est effroyable. On l'a appelé le boucher de Kaboul, lorsqu'il a voulu prendre Kaboul aux troupes de Massoud, il a littéralement anéanti la ville sous les bombardements, ce que Massoud ne faisait jamais. Massoud préférait retirer ses hommes que mettre en péril une population. D'ailleurs, d'une manière générale, il essayait de prendre le minimum de risques pour ses hommes. Il disait toujours « je préfère perdre du terrain, même de manière considérable, que perdre un seul homme ». Voilà, et c'est le contraire de Ekmatyar, évidemment. Et par la suite, les Américains se sont plutôt tournés vers Ekmatyar, vous voyez, déjà, que vers Massoud, parce que Massoud était ingérable. Massoud ne répondait pas à leurs attentes. Eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est une fois la victoire arrivée, une fois les Russes partis, quel type de gouvernement Massoud allait mettre en place. Mmh. Est-ce que enfin les Américains pourraient obtenir le fameux contrat, j'en parle dans mon livre, le fameux contrat qui leur permettrait de faire venir le pétrole de la mer Caspienne jusqu'à la Turquie, par exemple. Et comment le faire? Mais Massoud refusait totalement ça. Il ne voulait faire aucun accord avec les Américains. Il leur dit, vous nous aidez, mais parce que ça vous rend service. Il était lucide. Hein. Mm-hmm. C'est pas lui qu'on aidait. On aidait les Moudjahidines à combattre l'Union soviétique. On aidait les Moudjahidines. Mais ensuite, à partir du moment où les talibans sont arrivés, on n'a plus du tout aidé le commandant Massoud, parce que justement, Massoud était un troublion qui refusait tout accord avec l'Amérique. Ça, c'est important.
C'est-à-dire qu'il défendait un projet national pour l'Afghanistan
Un projet patriote. Il détestait... Il avait d'admiration, par exemple, pour... C'est dérangeant de le dire aujourd'hui, mais il avait une admiration pour Trotsky, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que la manière dont Trotsky avait formaté l'armée rouge, c'était l'antithèse du formatage des armées occidentales. Mm-hmm. C'était une armée patriotique, ce n'était pas une armée nationaliste. C'était très différent. Et lui, il a voulu faire la même chose, il avait un concept patriotique, c'est-à-dire préservant l'identité des différentes composantes de la nation afghane, pas de la population, de la nation afghane, qui est composée de 11 ethnies principales, et en s'ouvrant aux autres. En ne se refermant pas, mais en s'ouvrant aux autres autour de ce concept de préservation de l'identité, de préservation des richesses et de patriotisme.
C'est-à-dire que vous considérez, de votre expérience, de ce que vous avez vu, que ce commandant Massoud avait une capacité à fédérer la plus grande partie des ethnies afghanes autour de son alliance du Nord, dans l'alliance du Nord.
Exactement.
Pas simplement de dire ce sont les Tadjiks d'un côté, les Pashtuns de l'autre. Et puis les Haras.
Vous savez, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui rapproche Massoud de Aoun. Aoun, lorsqu'on le présentait en France, moi plusieurs fois j'ai suivi des conférences sur le Liban, et on disait le général chrétien. Alors lui, un jour, il a dit, dis-leur que je viens de me convertir à l'islam. Je fais ce qu'il me dit, c'était à Lyon, un grand théâtre de Lyon, j'ouvre la conférence et je dis voilà, j'ai un message du commandant du général Aoun, il s'est converti à l'islam, désormais vous devez l'appeler le général musulman. Il ne supportait pas, parce que lui il était général en chef de l'armée libanaise, qui était composée pour moitié de chrétiens et pour moitié de musulmans, sunnites et chiites. Donc c'était insupportable. Et de la même manière, Massoud considérait sur un pied d'égalité toutes les ethnies afghanes, y compris les Pashtuns. C'était important. Donc il avait un projet d'union nationale, d'alliance nationale, et autour d'un concept fédéraliste à la Suisse. Mmh. Il dit, nous sommes tellement différents, mais nous sommes tellement unis que le ciment de la confédération va nous permettre de tenir ensemble tout en préservant nos différences. Mmh. Et c'est ce qu'il a proposé aux grands chefs à l'époque, les commandants, vous savez, le pouvoir politique n'existe pas en Afghanistan, c'est le pouvoir tribal. Oui. Donc dans chaque région, vous avez un commandant suprême qui dirige par exemple les Tadjiks, qui dirige les Pashtuns, qui dirige les Hazaras, les Turkmènes, les Ouzbeks, et j'en passe. Et ensuite, ceux-là élisent le commandant des commandants. Donc, quand les Américains débarquent, il existe un gouvernement légal en Afghanistan, qui est celui du président Rabbani, président politique, de son vice-président, ministre de la Défense, le Massoud. Oui. Il venait d'être assassiné, mais... c'était ça, et il était commandant des commandants, c'est-à-dire il était le chef suprême, c'était pas Rabbani qui décidait, c'était lui, mais ce gouvernement était le seul reconnu par les Nations Unies, puisque les talibans n'ont jamais été reconnus par les Nations Unies, ils ont été reconnus par le gentil Qatar, dont on parlait précédemment, par le pays qui aujourd'hui dirige la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ce grand pays démocrate qu'est l'Arabie Saoudite, et par le Pakistan, un grand pays démocrate aussi qu'on connaît, etc. Voilà, donc les Américains n'ont pas accepté ça. On ne peut pas accepter, c'est quoi cette histoire de gouvernement Rabbani? Non, on va mettre un homme à nous, on va prendre si possible un agent à nous. Mm-hmm. Mais on a pris un agent de la CIA connu pour son dévouement à la cause américaine, à savoir Hamid Karzai. En plus, c'est un Pashtun, ça arrange tout. Comme ça, tout le monde est content. Échec lamentable. Devant cet échec, les Américains décident d'organiser des élections présidentielles. Mm-hmm. Le favori du camp Massoud et de l'Alliance nationale, c'est Abdullah, oui. Qui était le ministre des Affaires étrangères de Massoud. Excusez-moi. Et qui était devenu le nouveau leader de l'Alliance nationale. Mmh. Il est donné par tous les organes indépendants de sondage, il est donné archi-gagnant aux élections, avec au moins les deux tiers des voix. Et en réalité, il perd. Comment c'est possible? Même dans le Panchir, il perd. Mmh. Comment c'est possible? C'est ahurissant. Donc les Américains ont trafiqué évidemment pour faire élire Karzai. Le désastre. Au bout d'un certain nombre d'années de mandat de Karzai, on retire Karzai, on met un nouvel homme lige des Américains, à savoir Ashraf Ghani. Mm-hmm. Pire, c'est pire. La prévarication avec Ghani est devenue incommensurablement plus folle que ce qui s'est passé à l'époque de Karzai. Voilà le problème des Américains. Alors, ce problème est basé sur autre chose, sur un mensonge. Parce que les Américains vous expliquent qu'ils ont libéré l'Afghanistan. Pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, je le précise dans le livre aussi. Celui qui a libéré l'Afghanistan sur le terrain, c'est un certain commandant Daoud. Un héros, une espèce de Bonaparte jeune qui était le bras droit militaire du commandant Massoud, qui était comme lui un intellectuel, qui était comme lui un poète, qui était comme lui un illuminé illuminant, un personnage fabuleux. Et ce personnage-là, c'est lui qui commandait les troupes d'élite de Massoud sur le terrain. C'est lui qui a repris Talokan, c'est lui qui a repris Kunduz, c'est lui qui a repris Herat, et c'est lui qui a repris Kaboul.
En 2001.
Voilà. Et les Américains à cette époque-là, les Français et les Anglais, mais surtout les Français et les Américains leur ont apporté une aide aérienne.
Aérienne, logistique.
Mais absolument pas sur le terrain.
Couverture aérienne.
C'est au bout de deux mois que les troupes françaises, britanniques, italiennes, turques, on se demande ce que les Turcs venaient faire là, mais bon, peu importe.
C'était une coalition internationale.
Ça faisait plaisir aux Américains, il fallait une caution musulmane, hein, voilà, c'était important, sont arrivés sur le terrain. Et donc, Cette prétendue libération de l'Afghanistan des talibans grâce à l'Amérique, c'est un mensonge fondamental.
Et à la suite des attentats du 11 septembre.
Mais bien sûr. Voilà, parce que les Américains, après avoir eux-mêmes causé leur perte, puisque c'est eux qui ont financé Al-Qaïda, c'est eux qui ont inventé Al-Qaïda, c'est eux qui ont recruté Ben Laden, se sont retrouvés les pyromanes victimes du feu qu'ils avaient eux-mêmes provoqué, à savoir les attaques sur les Twin Towers et les attaques sur le Pentagone. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a tendance à oublier, les Américains, ça les arrange qu'on parle que des Twin Towers et pas du Pentagone. Parce que c'est le naufrage du prétendu bouclier infranchissable de l'armée américaine aux missiles ou aux attaques aériennes venues d'ailleurs. On a vu la fragilité énorme de l'Empire américain.
Oui. Alors, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons écouter cette fois encore un chanteur, mais cette fois un chanteur qu'aimait beaucoup aussi le commandant Massoud, Bob Dylan, avec How Many Years.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind.
answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Salvatore Lombardo pour son livre « De Massoud à Massoud, 20 ans après », publié aux éditions Louis de Mareuil. Salvatore Lombardo, alors, le commandant Massoud a été assassiné, mais aujourd'hui, vous êtes en contact avec sa famille, en particulier avec son fils, qui aujourd'hui, d'une certaine façon, continue dans la lignée de son père, et face à l'arrivée des talibans à Kaboul, lui s'est réfugié dans le Panchir, et dans le Panchir, et où il continue à animer une des poches de résistance.
Tout à fait. Vous allez me dire que l'histoire bégaye parce qu'on se retrouve dans une situation très semblable à celle qu'on a connue il y a 20 ans,
oui.
Sauf qu'elle est pire. Parce qu'il y a 20 ans, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas ce qu'était réellement Al-Qaïda, on ne savait pas ce qu'était la menace sur l'Occident. Mm-hmm. Aujourd'hui, on le sait. On sait que le fait d'avoir une base en Afghanistan leur a permis ensuite d'attaquer au Moyen-Orient et d'attaquer en Occident, mm-hmm. faire des attentats terrifiants un petit peu de partout et de polluer l'image de l'islam. C'est ça le plus terrifiant. Moi, je ne suis pas musulman, mais je serais musulman, je serais dans une colère noire. D'ailleurs, le commandant Massoud leur déniait le droit de se réclamer de l'islam. Mm-hmm. Il disait, ces gens-là sont le contraire exact de l'islam. Lui, il se réclamait de l'islam des Lumières. Et eux, c'est des barbares. Voilà, c'est pas autre chose. Qui se vantent en se parant des oripeaux de l'islam. Mais entre l'éthique et l'éthique, il y a une grosse différence. Cette différence, ce sont les talibans. Mm-hmm. Voilà, c'est le sang versé par les talibans. Donc, le fils du commandant Massoud, ouais. au départ, n'était pas formaté, n'était pas préparé pour prendre
la succession de son père. Il a 12 ans lorsque son père est assassiné.
Son père meurt, il a 12 ans. Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à présent. Je le rencontre lors des cérémonies d'hommage à son père après l'assassinat, après les obsèques, dans le stade de Kaboul. Il y a un hommage immense, un hommage international, mais en réalité, c'est l'hommage des Moudjahidine, 35 000 moujahidines dans le stade de Kaboul, plus l'aéropage des représentants de l'Occident, plus le président Amin Karzai, qui venait d'être nommé. Et donc les moujahidines acclament le fils du commandant Massoud, et quelques personnalités occidentales ont le droit de traverser la pelouse envahie par les moujahidines et de monter sur la tribune d'honneur en face pour aller saluer le fils du commandant. Je fais partie de ces rares, une poignée, on était peut-être 4 ou 5. Et donc je traverse la pelouse, je monte les escaliers accompagné par mon ami Daoud. Mm-hmm. Et le commandant Daoud.
Le commandant Daoud qui a libéré
Kaboul et qui a libéré l'Afghanistan sur le terrain. Qui entre-temps a été lui aussi assassiné par les talibans dans sa cité de Talokan en 2011. Oh, j'arrive, je monte ces escaliers, je suis très ému de voir ce gamin qui est imperturbable, qui porte le pacole de son père, le fameux béret des Tadjiks, et qui est d'une rigueur, d'un sérieux, un gamin de 12 ans, je vois pas ça, entouré des gardes du corps favoris de son père. J'arrive et je ne sais pas pourquoi, je détourne le regard, je regarde la foule des Moudjahidines, je regarde ce gamin et je me mets à pleurer. Et là pourtant je suis un grand reporter, j'ai vu des choses épouvantables, j'ai vu des gens sans jambes débarquer des hélicoptères que je devais prendre en moi. Les Les servants de l'hélicoptère nettoient l'hélicoptère à grands seaux d'eau et me dit monte vite, on repart immédiatement parce que les MiG pakistanais sont là. Vous voyez, j'ai vu des choses atroces, vraiment des cadavres abandonnés, fait tout ce qu'on peut imaginer, et je me mets à pleurer là. Ce gamin me prend la main et il dit quelque chose en farsi, en perse, et Daoud me traduit et il me dit, il te dit de pas pleurer. Et moi je lui dis, mais pourquoi je ne pleurerai pas? Donc il lui pose la question et il dit, parce qu'il vous regarde. C'était des moudjahidines.
Ah ouais.
Et tu peux pas, tu es l'ami de mon père, tu peux pas pleurer. Voilà, ça c'est le charisme d'un enfant de 12 ans qui donne des leçons au grand reporter qui était l'ami de son père. Voilà. J'ai dit, ce gamin, il est pas tout à fait comme les autres. Hein. C'est vrai. Et pourtant son père l'a toujours tenu à l'écart de la guerre. C'était pas l'enfant de la guerre.
Et vous ne l'avez jamais rencontré.
Je ne l'avais jamais rencontré. Le plus souvent, il était soit au fin fond du Panchir, soit au Tadjikistan.
Ouais, puis il avait que 12 ans aussi. Hein, peut-être que...
Mais là-bas, les enfants sont sacrés jusqu'à 10, 11 ans.
Mais
à 12 ans, normalement, ils peuvent venir. Mais lui, il l'avait encore tenu un peu à l'écart. Et puis voilà. Et heureusement qu'il n'était pas là le jour où son père a été assassiné. Voilà. Et donc, des années plus tard, Ahmad est parti un petit peu en Iran, un petit peu au Tadjikistan, un petit peu en Iran, et ensuite, il est parti en Angleterre pour faire ses études. Il a passé une quinzaine d'années en Angleterre. Il est sorti diplômé du King's College, qui est le collège de la famille royale, avec des notes exceptionnelles, bien meilleures que ceux des petits princes britanniques. Il a fait ensuite l'école de guerre britannique.
Est-ce qu'il parle français comme ça?
Non, il ne parle pas français, il ne parle qu'anglais, effectivement. C'est un beau dommage. Je lui dis toujours, tu n'as qu'un défaut, tu ne parles pas français. Voilà. Et lui, il a une réponse très belle, aidez-nous et nous, on parlera français. Voilà. Donc, il est en Angleterre, il ne se destine pas à revenir en Afghanistan, ou sinon comme simple citoyen. Il n'a pas vraiment envie d'un destin politique, il ne se considère pas comme l'héritier de son père, il dit, on n'est pas une famille royale. On est une famille normale et lui, il ne faisait pas partie de l'aristocratie du tout, les Massoud. Hein. Le père était un simple officier de l'armée royale, donc c'était pas quelqu'un de la haute société afghane. Et donc, il reçoit une délégation de commandants de l'Afghanistan qui viennent le voir. C'était il y a deux ans.
En
Angleterre. Il vient le voir à Londres, où j'ai pu le rencontrer aussi. Et ils lui disent, il faut que tu viennes, il n'y a que toi qui pourras faire l'unité, il y a des dissensions terribles dans la résistance qui est en train de se mettre en place, on sait que les Américains vont nous abandonner, on sait que les Occidentaux ne nous soutiennent pas, le gouvernement est totalement illégitime, le peuple n'en peut plus, les gens, si ça continue, notre pays sera une coquille vide, il faut que tu reviennes, sinon tout ce que ton père aura fait n'aura servi à rien. Donc il a dit, je vais venir voir. Et donc, il y a deux ans et demi, il vient d'Afghanistan pour la première fois depuis des années. Et il commence évidemment par le Panchir, c'est tout à fait normal. Et puis, il va dans différentes régions et partout, il est acclamé de manière inimaginable. On lui demande de prendre la parole. Il n'est pas préparé à ça. Il commence à prendre la parole. Et puis alors, il a une voix calme, une voix sereine. C'est pas quelqu'un qui s'emballe. C'est pas l'orateur traditionnel qui se met à hurler pour fanatiser les foules. Il les fanatise d'une autre manière, en leur parlant au plus profond de leur âme, au plus profond de leur cœur, en leur disant des choses justes, en leur parlant d'eux, non pas de lui, non pas de son père, mais d'eux. Il y a un véritable mouvement qui se déclenche, une espèce de traînée de poudre d'ailleurs qui inquiète Ashraf Ghani et ses principaux ministres qui commencent à dire mais qu'est-ce qu'il est venu foutre et les Américains eux-mêmes, qu'est-ce que c'est cette histoire, mais d'où il sort, pourquoi on lui a permis de revenir au pays. Évidemment c'était trop tard, le mouvement était engagé, il a décidé de créer avec d'anciens commandants de son père et avec aussi la jeune garde des nouveaux Moudjahidis, parce que les choses ont changé en 20 ans, l'Occident a au moins apporté ça, c'est des voies de communication digitales qui permettent au peuple de se former, d'être informé de ce qui se passe ailleurs. Il y a énormément, alors il y a un échec de l'éducation nationale afghane, évidemment, mais il y a un grand succès de l'éducation apportée par les ONG et par d'universités étrangères qui ont monté des campus là-bas. Par exemple, mon université, la Swiss UMF University de Genève, a monté un campus qui permet gratuitement à 7000 étudiants de se former et de passer des doctorats qui sont reconnus internationalement. La première chose que les talibans ont fait, ça a été de les fermer. C'est-à-dire que le 15 août, à 9h du matin, ils entrent dans Kaboul. À 10h du matin, l'université était fermée. Voilà, pour vous dire un petit peu à quel point ils se préoccupent de l'éducation. Voilà. Et donc, le fils du commandant Massoud est devenu, à son cœur défendant, commandant des commandants de l'Afghanistan. Il a succédé à son père. Mais il n'imaginait pas que les choses iraient si vite, lui non plus. Il voulait construire quelque chose de solide en essayant de composer avec d'anciens partisans de son père et avec cette nouvelle génération d'universitaires, de militaires et de jeunes issus du peuple qui avaient envie d'autre chose, des journalistes, des écrivains, des artistes. Il voulait tous les convoquer, il appelle ça « je les convoque au grand banc de la liberté de la nation ». Ça, c'est des mots qui semblent vides de sens lorsqu'on les prononce à Paris.
Une sorte d'état
pas.
Généraux de la nation, on a connu ça quand même.
Mais c'est extraordinaire. Il se réclame justement de la Révolution française. Et il dit, nous étions le tiers-état, désormais nous allons devenir, nous, le peuple, nous allons devenir l'aristocratie. C'est nous qui représentons l'avenir de l'Afghanistan. C'est pas ces gens-là qui se sont servis éhonteusement de l'argent des Occidentaux pour s'enrichir sans rien faire pour le peuple, ou alors en lui donnant des miettes. Et lorsque l'inévitable est arrivé, lorsque Trump a signé cet accord dégradant pour l'Amérique avec les talibans, et lorsque les talibans sont arrivés définitivement en Afghanistan, il a décidé de lancer le combat pour la liberté. Et voilà, donc il a appelé au soulèvement national, il a envoyé des messages partout dans les chancelleries occidentales et arabes, il a envoyé des messages à l'intention du peuple, il a fait fonctionner ses réseaux sociaux et il a mis en œuvre cette nouvelle révolution nationale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les talibans sont ouvertement soutenus par le Pakistan, qui envoie son aviation sans même se donner la peine de maquiller les appareils. Ils arrivent avec les cocardes de l'aviation officielle de l'armée pakistanaise. Et donc, vous avez plusieurs centaines d'hélicoptères de combat, d'attaque, qui participent au combat. Vous avez des dizaines d'avions de chasseurs-bombardiers qui participent. Et vous avez aussi cette effroyable vague de missiles de croisière envoyés depuis la Turquie et qui viennent écraser la première ligne de défense du Panjshir, puisqu'évidemment c'est la citadelle de la résistance, le Panjshir. C'est l'endroit qui normalement est le plus aisé pour résister, parce qu'il n'est à la fois pas loin de Kaboul et quasiment imprenable, puisque les soviétiques s'y sont cassés les dents.
Et donc, ce sont des montagnes, des reliefs.
Et comme il le dit lui-même, j'ai mille fois plus de respect, comme mon père l'avait, pour la valeur militaire des spetsnaz russes que pour celle des miliciens talibans. Donc nous devrions résister, à condition que nous apporte un soutien en matériel et un soutien diplomatique qui empêche enfin le Pakistan d'intervenir ouvertement dans nos combats pour la liberté.
Vous pensez que il a un avenir politique, le fils du commandant Massoud?
Il a déjà un présent politique très fort. Il a un présent politique très fort. Il a su immédiatement réagir à la prise de l'entrée du Panjshir, qui est une espèce de plaine qui se développe le long de la rivière Panjshir. Il a immédiatement demandé à ses hommes de se retirer dans les vallées adjacentes
et de ne pas perdre inutilement des vies humaines.
Exactement.
Comme son père,
Il est parti au Tadjikistan pendant 3-4 jours pour veiller à monter une base qui soit prête à recevoir à la fois ses blessés et tout l'approvisionnement dont il a besoin, non seulement en armes, en munitions, en carburant, mais aussi en vivres, parce que des centaines de milliers d'Afghans se sont réfugiés, on ne le dit pas, sont réfugiés comme à l'époque de son père pour fuir les talibans dans le Panjshir.
Et son devoir, c'est pour la population civile.
Son devoir, c'est de nourrir ces gens, sans leur poser de questions, sans savoir s'ils sont ouzbeks, pachtounes ou hazards. Ou tadjik, peu importe. Donc c'est son devoir. Donc il a un avenir qui est basé sur le présent exceptionnel qu'il développe à l'heure actuelle.
Bon. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Je vous remercie, Salvatore Lombardo, de votre participation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, De Massoud à Massoud, 20 ans après. Nous aurons sans doute l'occasion prochainement de revenir sur ce personnage, son père, le père et son fils, donc, que vous avez connu de près. Une dernière pause musicale, une chanson qui était chère au cœur du commandant Massoud. Nous allons écouter John Lennon.
A Working Class Hero.
À très bientôt pour une prochaine émission.
À très
merci
bientôt.
À Olivier en régie. Merci Salvatore Lombardo.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.